Le journal, Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Quand les gilets jaunes s'emparent du grand débat, 800 rencontres déjà programmées, jusque dans les plus petites communes. Nous serons à Espalais dans le Tarn-et-Garonne, alors que le mouvement organise son 10e samedi de mobilisation. Alstom, Siemens, Bruxelles s'opposent au mariage, Paris insiste, récit d'un bras de fer. Nous irons à Gdansk en Pologne, où la ville traumatisée enterre aujourd'hui son maire assassiné, un prédateur sexuel du métro parisien arrêté grâce à l'une des adolescentes agressées. Le mondial de handball, deuxième phase, portrait d'un bleu très prometteur, Melvin Richardson, fils de Jackson.
Nos invités dans ce 6-9 du week-end, Patricia Martin à 8h-10.
Le paléo-anthropologue Pascal Pic pour un livre L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur.
Et à 8h20, nos invités Salomé Berliou et Erki Maillard qui publient chez Robert Laffont Les Invisibles de la République, comment on sacrifie la jeunesse de la France périphérique.
France Inter.
Quand les gilets jaunes s'emparent du grand débat, Bernadette.
Pas question de laisser la prééminence au chef de l'État, Emmanuel Macron, qui en 3 jours a enchaîné 2 débats marathons, plus de 6 heures, micro en main, hier à Souillac, sur l'ISF, la CSG, les 80 km/h. Il a répondu aux questions de quelques centaines de maires qui ont été abordées. Mais le grand débat, c'est pour que nous nous exprimions, estiment les gilets jaunes, qui ne rejettent pas cette formule imaginée par l'exécutif. Hier à Espalais, l'un des plus beaux villages de France, 400 habitants, et 100 personnes dans la salle. Alain Gastal.
La réunion a été déclarée, elle est même officiellement labellisée Grand Débat, mais en fait organisée par les Gilets jaunes. Dans la petite salle communale, prêtée gratuitement par le maire, une bonne centaine de participants qui doivent d'abord répondre à cette première question.
Est-ce que quelqu'un ici s'oppose farouchement à ce qu'il y ait des journalistes dans la salle ? À main levée, non, bon.
La presse est donc autorisée à rester pour assister à une vidéo où le controversé Étienne Chouard explique que la bataille pour le référendum d'initiative citoyenne est la mère de toutes les batailles. Une des animatrices de la soirée embraye.
Quelles que soient les revendications, on n'a pas tous les mêmes. On pourra s'exprimer grâce au RIC. Donc en fait, s'il faut avoir vraiment une revendication tous ensemble, c'est le RIC.
Après une bonne heure et demie de débat, une liste de 25 revendications inspirées des Gilets jaunes, mais aussi de la France insoumise, est établie. Dans 15 jours, il faudra les classer par ordre de priorité. Les Gilets jaunes ont, eux aussi, à leur façon, lancé leur grand débat.
Ne vous démobilisez pas, ne perdez pas confiance. On est suivi dans le monde entier et partout en Europe. Les gens observent ce qui se passe au niveau français, donc on ne va pas les décevoir. Hein.
À Espalais, dans le Tarn-et-Garonne, Alain Gastal, France Inter.
Aujourd'hui, pour les Gilets jaunes, le débat se fera dans la rue. 10e samedi de manifestation, le premier depuis le lancement du grand débat. Alors l'enjeu, c'est bien sûr la participation. On verra ce qu'il en est. En province, rassemblement annoncé également à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Saint-Étienne, Roanne ou encore Montceau-les-Mines. Côté force de l'ordre, 80 000 policiers et gendarmes déployés comme samedi dernier, dont 5 000 à Paris. Nouvelle mise en examen pour Alexandre Benalla, pour usage abusif de ses différents passeports. En revanche, il n'est pas poursuivi pour falsification de documents. L'actualité judiciaire, c'est aussi l'arrestation d'un agresseur sexuel du métro parisien. En 7 mois, il a agressé sexuellement au moins 5 adolescentes. Il a été arrêté cette semaine, écroué en attendant son procès mi-février. Il est passé aux aveux, Emmanuel Leclerc.
L'homme est âgé de 30 ans et il a expliqué aux enquêteurs qu'il a des pulsions sexuelles depuis un peu plus de 6 mois et qu'il n'arrive pas à les contrôler. Originaire du Bangladesh, ce cuisinier qui travaille dans la capitale a eu le comportement d'un agresseur sexuel en série qui attaque toujours au même endroit entre la gare du Nord et la station République et toujours à la même heure entre 8h30 et 8h45. Selon nos informations, l'enquête vidéo initiale montre un homme qui choisit ses proies, ses victimes, toujours à peu près le même profil d'adolescente entre 12 et 14 ans avant de se coller pour toucher la poitrine, les fesses ou encore le sexe de ses victimes. C'est une adolescente de 14 ans à la mi-décembre dernier qui a fait basculer l'affaire. Elle décide de courser son agresseur avant de déposer une plainte. Plainte très bien détaillée, mais durant les 15 jours suivants de surveillance mise en place à la Noël, le suspect ne réapparaît pas. Le cuisinier bangladais repasse finalement à l'acte en début de semaine, une jeune fille de 14 ans à nouveau, avant de revenir mardi matin et d'être cette fois neutralisé. Son procès, qui devait avoir lieu hier en comparution immédiate, se tiendra finalement le 11 février prochain à Paris.
Emmanuel Leclerc, Alstom Siemens, toujours pas de carnet rose. Le mariage prévu entre les deux Européens pour donner naissance à un géant européen du rail peine à convaincre la Commission européenne. Margaret Vestager, la redoutable commissaire en charge de la concurrence, sera lundi à Paris. Paris qui craint un veto européen et qui poursuit son bras de fer, Laurent Kramer.
En coulisses comme en pleine lumière, le gouvernement ne décolère pas. Rejeter le mariage entre Alstom et Siemens serait une erreur économique, une faute politique, souligne le gouvernement. Du côté de Bercy, on ne décolère pas non plus contre ces indiscrétions parues dans la presse qui enterrent le mariage avec Siemens alors qu'aucune décision de Bruxelles n'est officiellement confirmée. Renoncer à la naissance d'un géant européen du ferroviaire reviendrait pour la France à capituler devant la Chine. Seul un mariage entre Alstom et Siemens permettrait de résister aux géants chinois du ferroviaire, souligne une source en interne. Alstom engrange aujourd'hui des milliards de dollars de commandes, mais ne pourra pas résister seul sur le long terme face à cette concurrence chinoise. Pour Paris, un veto européen enclencherait donc un séisme industriel sur le long terme pour l'ensemble du ferroviaire européen.
Laurent Kramer, il est 7h37 et Bernadette, à l'étranger, la Pologne abasourdie enterre le maire de Gdansk assassiné.
Depuis jeudi, des dizaines de milliers de personnes sont allées s'incliner devant le cercueil de Paweł Adamowicz, mort lundi après avoir été poignardé la veille au cours d'une fête de charité. Des files d'attente de 2-3 heures et des milliers de personnes qui ont également signé les registres de condoléances. À Gdansk et dans toute la Pologne, les obsèques s'annoncent très suivies. Thomas Giraudot.
Des écrans géants à Gdansk, mais aussi dans les grandes villes du pays. À Varsovie, Łódź, Poznan, Wrocław, les habitants pourront suivre ensemble le dernier hommage rendu à la mi-journée à Paweł Adamowicz. Dans l'immense basilique Sainte-Marie de Gdansk, les principaux dirigeants politiques du pays seront là. Le président Andrzej Duda, qui ne prendra pas la parole lors de la cérémonie. Il sera accompagné du premier ministre Mateusz Morawiecki, le président du Conseil européen, proche du maire de Gdansk, Donald Tusk, et l'ancien chef de l'État, Lech Walesa, seront aussi présents. Les habitants sont invités à assister à la cérémonie. Depuis jeudi soir, plus de 30 000 d'entre eux sont venus rendre un dernier hommage à leur maire dans le musée de la solidarité qu'il a créé. Ils étaient également plusieurs milliers hier soir accompagnant le cercueil de Paweł Adamowicz tout au long de la procession funéraire menant au lieu des obsèques. Gdansk, Thomas Giraudot, France Inter.
Le meurtrier apparemment déséquilibré a-t-il été influencé par le discours de haine qui est très présent dans le pays avec une hostilité permanente entre les conservateurs au pouvoir et l'opposition centriste. En sport, début du deuxième tour du mondial de handball, la course vers les demi-finales est lancée. Les Bleus ont quitté Berlin pour Cologne. Dès ce soir, ils affrontent l'un de leurs plus redoutables adversaires, l'Espagne, championne d'Europe. Et parmi les Bleus, le jeune Melvin Richardson. Il a encore une carte à jouer, une belle carte. Il y a deux jours, le fils de Jackson Richardson a fait une apparition remarquable pour son premier match en compétition internationale. Jean-Pierre Blimaud.
Melvin Richardson se la joue modeste. Quand on est un jeune joueur, aussi prometteur soit-il, au milieu des experts, l'humilité et le travail restent la seule façon de se fondre dans un groupe dont le talent n'est plus approuvé. Et même s'il a gagné l'an dernier la Ligue des Champions pour sa première saison à Montpellier, il reste zen.
C'est peut-être dans l'éducation que j'ai eue. On m'a toujours inculqué les valeurs de plaisir. Tout en restant sérieux, je m'éclate dans ce que je fais, c'est le principal.
Redoutable gaucher, là où son père faisait des ravages avec son bras droit, Melvin Richardson a marqué 4 buts en moins de 21 minutes face aux Russes. Et ce n'est qu'un début, le capitaine des Bleus, Mickaël Guigou, son partenaire à Montpellier.
C'est un joueur qui veut gagner des titres. Il était déjà très déçu de ne pas être parmi les 16. Maintenant qu'il y est et qu'il a du jus, on a vu la différence entre un Nicolas Karabatic qui revient de blessure et lui qui est en jambes et on va en avoir besoin.
Même si son père, Jackson Richardson, est une légende du hand, le fiston n'est absolument pas gêné par ce lourd héritage. Il envisage de faire lui aussi une grande carrière avec les Bleus.
De pouvoir être dans le vestiaire de l'équipe, de pouvoir voir comment l'équipe vit et tout, voilà, c'est là que tu te dis, voilà, t'es vraiment dedans, quoi. Moi, je suis super content. On ne pourra vivre ça.
Melvin Richardson ambitionne un premier titre de champion du monde à 4 jours de son 22e anniversaire. Ce serait avec 4 ans d'avance sur son glorieux papa. Cologne, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
France-Espagne, ce sera à 18h ce soir. Et puis en tennis, à Melbourne, Pierre-Hugues Herbert n'a rien pu faire face au Canadien Raonic au 3e tour de l'Open d'Australie. Il ne reste plus qu'un Français en lice, Lucas Pouille.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz. La météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Nous avons rendez-vous avec Jean-Michel Golinski de Météo France. Jean-Michel, une journée aux allures hivernales.
Ah, tout à fait Pierre, la perturbation qui va traverser une large moitié nord du pays dans la journée arrive sur des températures positives près de l'Atlantique, mais froides dans l'intérieur. Autant dire qu'au contact de l'air froid, il y a un risque de neige ou de pluie verglaçante. Alors ce matin, du centre Val-de-Loire à la Normandie, vers la mi-journée du nord de la Seine à la Bourgogne, et puis ce soir et la nuit prochaine, dans le nord-est et à basse altitude sur le Massif central. Plus à l'est, le soleil va progressivement se voiler. Près de l'océan, retour d'un ciel variable rapidement ce matin, mais avec des ondées. Autour de la Méditerranée, le temps sera sec et bien dégagé, mais la Corse ne va pas échapper aux averses. Et puis notez qu'il va neiger au-dessus de 1000 mètres sur les Pyrénées et vers 800 mètres sur les Alpes.